France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous. En janvier 1994, alors qu'elle faisait son grand retour à Paris sur la scène de l'Opéra Bastille dans Adrienne le Couvreur de Francesco Cilea, la grande soprano Mirella Freni s'était confiée au micro de Sergio Segalini dans son émission Le Rideau écarlate. La chanteuse évoquait en français sa vocation pour le chant, les grands rôles qui ont jalonné sa carrière et les personnalités marquantes qui ont croisé sa route, comme celle du chef d'orchestre Herbert von Karajan, une rencontre déterminante en 1963 à la Scala de Milan, dont elle raconte les circonstances. Mirella Freni se confiait à Sergio Segalini, nous étions le 5 janvier 1963.
Bonsoir, Le Rideau écarlate, Sergio Segalini. Avec cet après-midi, une invitée de marque, notre rideau écarlate se lève sur l'une des plus grandes titulaires du chant italien, en tout cas la dernière. Vous l'avez reconnue, notre invitée de cet après-midi, elle chantait ici « O mio bambino caro » de Janiski, qui c'était un enregistrement qu'elle avait effectué en Allemagne. Bonsoir Mirella Freni, vous êtes parmi nous à la veille de chanter pour France Musique et pour Arte, la chaîne de télévision. Adrienne Lecouvreur, que vous êtes en train de chanter à l'Opéra Bastille, qui a marqué votre retour à Paris après une longue absence, tout au moins sur la scène, car vous êtes revenu pour des concerts, mais cela faisait longtemps que Paris n'avait plus l'honneur de vous entendre et de vous voir.
Oui, il y a 15 ans non, que je n'ai pas chanté une opéra à Paris, et grâce à Dieu que j'ai eu cette possibilité avec Adrienne.
Oui, d'autant plus qu'avec Paris, vous avez des rapports privilégiés, vous avez toujours eu, disons, des accueils plutôt favorables, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. je me rappelle aussi dans Les Fosses, dans l'autre opéra que j'ai chanté ici, La Bohème, et les Figaro, tu te rappelles. Et quoi encore, Simone, Boccanegra et autres, comme ça. Toujours le public avec moi, il était extraordinaire. On m'aime beaucoup, je peux dire, vraiment.
Donc l'histoire d'amour avec Paris est une histoire ancienne. L'histoire d'amour avec l'opéra a commencé, vous, très jeune. Vous étiez dans la plaine du Pô. Vous êtes une fille de la plaine et vous avez commencé à chanter. Pourquoi vous avez chanté?
Mais je ne sais pas.
Comment une jeune fille, justement, a tout à coup sommé à chanter?
Mais je dois commencer vraiment quand j'étais un petit enfant, parce que ma mère, elle me dit que quand j'ai eu 2 ans, seulement 2 ans, et j'écoutais à la radio l'opéra. J'ai quitté tous et je suis allée vers la radio et j'ai commencé à écouter et à danser avec les rythmes, écouter, mais seulement pour l'opéra. Et après, quand j'étais 5 ans, seulement qu'on m'a demandé qu'est-ce que je ferais de grande. La demande qu'on fait qu'est-ce que tu vas faire? J'ai toujours dit la chantatrice d'opéra. Je ne sais pas pourquoi, et je suis réussie. Comment on peut expliquer ça? Je ne le sais pas. Mais la musique, mais surtout le chant, il m'a toujours attirée. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il m'a donné des émotions incroyables dedans. Et aussi, toujours, si je vais au théâtre et j'écoute quelqu'un qui chante et qui me donne des émotions grandes, je peux sauter sur le plateau pour l'embrasser parce que vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la voix, naturellement avec la musique. Le chant, pour moi, c'est quelque chose de profond, d'extraordinaire.
Vous ne pensez pas que vous appartenez peut-être à une région un peu privilégiée, car l'Émilie-Romagne, même un peu la Lombardie et la Vénétie, sont des terres de chanteurs.
Oui, en Émilie et Romagne, il y a beaucoup de traditions pour l'opéra, il y a beaucoup de chanteurs, aussi des chantatrices fameuses et fameux. Oui, on commence quand tu es petit et à parler de l'opéra, on te porte à l'opéra, et là, naturellement, tu vas grandir avec la musique.
Vous n'avez d'ailleurs pas quitté votre terre natale, car
non,
je crois
jamais.
Que vous avez encore une petite maison là-bas et que vous êtes très attachée.
Ah oui, je ne quitterai jamais Modena, que c'est ma ville, que j'adore et je dois être là pour tout. Et je me sens bien là. Je retrouve mon équilibre, ma fille avec les petits-enfants, ma mère, les sœurs, mon frère, et tout, la famille est là.
Pour vous, c'est important?
Pour moi, c'est très important. Très, très, vraiment.
Pourtant, quand on est une grande cantatrice, qu'on est une diva, qu'on chante à San Francisco, à New York, à Tokyo, à Moscou, à la Scala de Milan, au Covent Garden, à l'Opéra Bastille, habiter Modena, ce n'est peut-être pas très pratique, parce qu'on préfère toujours habiter à côté d'un aéroport.
Mais ce n'est pas loin, Bologne. Bologne, c'est seulement 25 km par l'autoroute. 25 km, c'est comme ici à Paris, je pense, je ne sais pas, la distance d'ici à Charles de Gaulle.
Oui, c'est vrai que ce n'est pas tout près.
Alors, c'est presque que la même chose, je peux arriver. Et là, j'aime beaucoup de vivre dans une petite ville parce que c'est plus tranquille, c'est plus calme, je me peux promener, on prend jamais la voiture.
Mais est-ce que vous y êtes de temps en temps?
Oui, mais je garde le temps pour être là à Modena souvent. Et quand j'arrive, je fais pas la publicité pour dire je suis là. Je reste à la maison. Je peux sortir avec les enfants, ma fille. Je fais la vie normale. Et vraiment, je ferme la porte de la musique, du théâtre, de tout. Et là, je deviens une autre femme. Et je me trouve vraiment bien de l'autre femme aussi.
Mais lorsqu'on s'appelle Mireille Lafrègne et qu'on se promène dans la rue, ce n'est pas embêtant?
Non, parce que, écoute, naturellement, on me connaît tout le monde là. Et alors, ils sont gentils avec moi. Bonjour, bonsoir. Ça arrive. Et quelquefois, tu sais, quand je vais faire les cours, que j'ai des grands packs de polos à porter parce que je répète, je ne veux pas aller avec la voiture. Alors, on se ferme les voitures. Madame Freni, vous avez besoin que je vous ramène à la maison? Non! Oh, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je veux faire la vie normale, mais c'est bien, c'est bien.
Bonsoir,
Rendez-vous avec Mireille Lafreni, eh bien c'est normal qu'on entende La Bohème. La Bohème, c'était ici à l'Opéra de Vienne, dirigé par Karajan, c'était le 9 novembre 1963. Vous avez reconnu, c'était le final du premier acte et son Rodolphe était Gianni Raimondi. Je crois, Mireille Lafreni, que La Bohème est malgré tout votre rôle par excellence. Ça a presque commencé avec La Bohème et ça continue avec La Bohème.
Oui, oui, mais c'est parce que j'ai devenue fameuse, je peux dire ça, sans présomption, avec Mimi, surtout après la représentation de la Scala de Milano avec Gianni Raimondi et Karajan qui l'a dirigé aussi. Et là, tout le monde a parlé de cette Mimi, l'idéal unique des siècles. Je suis allée aussi au Metropolitan de New York pour la première fois avec Bohème, avec Mimi.
C'était votre rôle fétiche.
Oui, mais que j'adore Mimi parce que c'est un rôle extraordinaire aussi. Mais naturellement, ce n'est pas seulement ça. Après, avec la maturité, je ne le refuse pas. Je continue aussi à la chanter et elle me donne des triomphes incroyables. Mais naturellement, j'aime aussi le nouveau répertoire que j'ai commencé à faire dans les dernières 10 ans.
Mais vous aimez Mimi, pourquoi? Parce que c'est le rôle du début ou vous trouvez que son personnage est a quelque chose de plus que les autres?
Non.
Ou correspond à votre
femme? Non, je l'aime parce que c'est une femme simple que tu peux trouver aussi aujourd'hui. Parce que ce n'est pas l'héroïne Tosca ou Adrienne ou Fedora, tu comprends. Il est simple, mais il est tellement plein de humanité et de naturalezza. Non?
De naturel.
Oui.
De naturel.
Et il est de gentillesse aussi vers les autres. Parce que pour découvrir Mimi, moi j'ai commencé dans le dernier acte, quand il va mourir et il a une parole pour tout le monde, pour tous. Pour non, excusez-moi, il veut dire à Marcello que Musette est bien, qu'elle est gentille. Et tu vois, elle sait bien qu'elle meurt. Et là, c'est le caractère, la humanité, la générosité de Mimi. Et c'est extraordinaire dans sa simplicité. Et Puccini l'a porté dans une manière extraordinaire.
La Mimi que nous venons d'entendre, c'était avec Karajan. Vous l'avez chanté avec Karajan à la Scala de Milan, à l'Opéra de Vienne. Vous êtes allé
partout.
Au Japon avec lui. Vous êtes allé à Moscou, au Bolshoï avec lui. 30 ans après, parce que 30 ans, évidemment, 30 ans, c'est beaucoup.
Oui.
Est-ce que, justement, l'émotion est la même?
Oui, il change jamais parce que je répète, j'adore la musique, j'aime beaucoup chanter. Naturellement, avec la maturité, l'expérience, je suis pas plus dedans de moi, plus clair, non? Quand tu es jeune, tu te jettes comme
Bien,
ça.
on fonce, comme on dit.
Oui. Mais naturellement, dans certaines choses, on m'a dit, on l'a dit, on l'a écrit aussi, si on parle de Mimi toujours, que je suis encore plus profonde parce que j'ai vécu et je connais maintenant vraiment les problèmes de la vie, la douleur, tout ce, et avant, quand j'étais tellement jeune, j'étais une âme vraiment contente, toujours contente et heureuse. Et alors, je l'ai fait avec l'instinct et avec la sensibilité. Mais maintenant, je le vis.
Mais à vous voir, à vous entendre, et surtout lorsqu'on vous entend là à la radio, avec nous en direct, eh bien, on a l'impression que vous êtes toujours heureuse, toujours souriante, toujours épanouie. Donc, on n'a pas
Oui,
l'impression
c'est
que...
vrai, c'est vrai, je suis comme ça, c'est ma nature, non? Mais naturellement, quand je vais interpréter maintenant des choses, je sais ce que veut dire. Et alors, peut-être un petit accento, comme on dit, il change beaucoup, tu sais, dans la musique. Et maintenant, je le mets. Avant, c'était avec la couleur plus de la voix, comme ça. Et maintenant, c'est changé un petit peu.
Thank you.
Eh bien, c'était 2 ans à peine après les fameuses bohèmes avec Karajan. C'était toujours avec Karajan. C'était Carmen à Salzbourg. Et Carmen, que vous avez énormément chanté, le rôle de Michaela, avec Karajan, bien sûr. Et vous l'avez tellement chanté, vous l'avez tellement aimé, que je crois que vous avez appelé votre fille Michaela.
Oui, parce que Michaela, c'était mon début à Modena le 3 de février de 55. Et l'année suivante est née ma fille, et alors elle était un petit comme ça, avec un petit nez, on l'appelait Michaela. C'était un homme qui me plaît beaucoup, ce n'est pas pour le rôle, mais j'aimais beaucoup, et elle s'appelle Michaela.
Mais le rôle, alors, pour vous, est quelque chose.
Oui, je suis partie avec Michaela, et maintenant je suis...
Vous vivez avec Michaela.
Je vive avec Michaela.
La bohème. Carmen.
Oui.
Karajan.
Oui.
Karajan a été, je crois, très important.
Pour moi, c'était le chef d'orchestre qui m'a influencé plus de tous. Parce que la première fois, c'était avec cette bohème de 63 à La Scala. C'était notre rencontre là. Et lui, il a dit oui pour Freni. Parce que quelqu'un, il a lui parlé de moi, il a dit maestro, il sera la Freni, votre Mimi pour toute la vie. Et il a dit bien, on va voir. Mais quand il est arrivé à La Scala, avec le premier rencontre, j'ai vu qu'il m'a regardé comme ça. Et j'étais jeune, mince. Et j'ai vu dans son regard qu'il a dit oui, la figure, il l'a.
D'accord.
C'est Mimi. Mais... Non, son là.
Mais après, il y a le physique.
Le physique, il est là. Mais après, il faut voir écouter la voix. Et il est resté comme ça, mais et après 10 minutes de répétition avec Zeffirelli, il a dit, Zeffirelli, vous avez besoin de Madame Freni? Il a dit, Zeffirelli, non, tu peux imaginer, on a répété le troisième acte, Mimi, elle est toujours là, et alors le maestro, il m'a pris dans sa loge, et il a ouvert, tu peux imaginer, la partition, le dernier acte. Comme moi, que je suis partie pour découvrir le caractère de Mimi dans le dernier acte. Et lui aussi, il a fait la même chose. Et j'ai commencé à chanter pour lui, et il a joué le piano, et il m'a regardé, j'ai vu qu'il a commencé à devenir pâle. Après, tout d'un coup, il était ému, il s'est... a enlevé vite, il m'a fait un petit...
Une petite claque affectueuse.
Affectueuse, il a dit, on y va. Et après, et moi, j'ai respiré parce que j'ai connu que ça, c'était l'audition que je n'ai pas fait avant. Et là, j'ai joué toute la carrière. Et après ça, et après la première, Karajan, il est venu sur le plateau, il a pleuré. Il m'a embrassé et il m'a dit, Mirella, c'est la deuxième fois que je pleure. Tu m'as fait pleurer, j'ai pleuré seulement quand est morte ma mère. Et c'était tout, Le compliment, mais c'était un grand compliment. Hein. Et après, de là, nous avons travaillé presque toute la vie avec lui.
Oui, parce qu'on a parlé d'une histoire d'amour, Mireille Lafrigne avec Mimi, mais on peut parler d'une autre histoire d'amour, Mireille Lafrigne et Carayanne, parce que
oui,
vous avez énormément
travaillé. Oui, une histoire d'amour...
Musicale, bien évidemment.
Musicale, oui. Ça, elle doit être bien claire.
Nous, les gens de musique, nous aimons seulement la musique,
oui,
c'est bien
oui,
connu.
Oui, oui, oui. Bien clair. Vraiment, et j'ai lu des interviews que le maître Carayanne a il a donné à beaucoup de magazines. Il a dit, j'ai jamais eu une rencontre comme ça avec une chanteur ou chantatrice, parce que c'était une chose extraordinaire, Sergio. Nous, sans parler, nous sommes été toujours dans la même ligne, dans la même relation. Sans répéter, on a fait la musique. Quand il a fait un piano, j'ai pensé la même chose. Et lui, et c'était une chose extraordinaire. J'ai eu vraiment grande chance d'être comme ça avec lui.
Je crois qu'il a aussi, vous a aidé peut-être à trouver une autre identité. Parce qu'au départ, Mireille Lafrigne était un soprano lyrique, voire lyrico leggero,
oui.
Avec un mi-chemin entre le lyrique et le
lyrico
leggero.
C'est vrai.
Et avec lui, il vous a peut-être convaincu que votre voix avait des possibilités plus grandes.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est lui qui m'a demandé la première fois, c'était Requiem de Verdi. C'est que j'ai fait mon début ici à Paris. À Champs-Élysées avec lui.
Nous en gardons un grand souvenir.
Oui, oui, je me rappelle, mais je dois confesser, s'il y a le temps de le dire, que j'ai eu une peur terrible quand est arrivé le jour de le concert. Et j'ai eu le trac, j'ai pleuré, et avant de sortir à Champs-Élysées, j'ai dit, maestro, mais j'ai fait une grande faute, maintenant je ne peux pas. je suis une soprano lyrique, je ne peux pas chanter Requiem. Il m'a regardé et... Et qu'il m'a connu bien, il m'a dit « Marche !» Et je suis sortie et je chantais. Et je me rappelle que c'était un triomphe. La critique de Clarendon sur Figaro, c'était quelque chose d'extraordinaire. Pour le finale de le Liberame Domine Requiem, pour moi, il a parlé que je l'ai encore là.
Encadré.
Ah, oui, oui.
Mais ça a été le premier pas, donc, d'une certaine manière, vers la nouvelle carrière qui a englobé des héroïnes très lourdes.
Oui, oui. Et après, Don Carlos, Ido, Otello... J'ai fait avant Otello, Requiem et toutes les choses comme ça avec lui.
Avec chaque fois la même peur?
Non, j'ai eu peur encore avec Don Carlos. Encore là, un petit peu. Parce que quand on a fait la première répétition avec l'orchestre, tu peux imaginer, Giaurov, avec cette grande voix, Cappuccilli, Domingo, toi, je dis, mais je suis comme petit oiseau, alors c'est mieux que je pars. Alors je dis, maestro, je veux aller, vous devez trouver une autre. Et lui, il m'a dit, bien, bien, tu vas manger, on parlera dans l'après-midi. Et dans l'après-midi, je fais tout le grand acte, le dernier. Et lui, il m'a dit, oh, reviens, descends, et tu me demandes pardon.
Una fuga, non sei
Kleiber, 7 décembre 1976, Othello, acte 3. Mirella Freni, c'était vos débuts, je crois, à la Scala de Milan dans le rôle d'Othello. C'était l'ouverture de la Scala de Milan. C'était la première fois que vous le chantiez dans une mise en scène de Franco Zeffirelli.
Oui.
Voilà encore une grande rencontre avec un grand chef, Carlos Kleiber,
oui.
Quelqu'un qui est un peu particulier d'ailleurs.
Je dois dire que les deux capas, Karajan et Kleiber, les capas, on m'a porté.
Vous en portez bonheur.
Bonheur.
Mais on me dit que Kleiber est tellement difficile que c'est quelqu'un.
Oui,
de...
il est un peu étrange quelquefois parce qu'il est très sensible et alors il faut. De garder bien, être gentil avec lui. Mais lui est gentil, mais vraiment, il est un peu étrange. Mais je le comprends bien et lui, il m'aime beaucoup. Et vraiment, on a travaillé vraiment, vraiment bien, bien, bien. Et aussi, en cet hôtel avec Placido, que Placido aussi, il a un bon caractère, il est gentil, il est toujours de bonne humeur. On a fait, sans parler, on s'est regardé et on a pris entre nous. Kleiber, on l'a porté au restaurant pour le tenir de bonne humeur et tu as vu qu'est-ce qui est arrivé avec cet hôtel parce que Kleiber aussi c'est un grand chef, il a des qualités extraordinaires, incroyables.
Les mélomanes, les lyricophiles se posent toujours la question quand Kleiber dirige génialement Othello, dirige génialement La Bohème, par exemple, il a fait un Tristan absolument de légende aussi.
Oui.
Pourquoi alors, Mirella, il ne dirige pas davantage? D'autant plus lorsqu'il trouve des chanteurs avec lesquels il s'entend si bien.
Je sais, parce que j'ai fait seulement l'Othello et La Bohème avec lui, parce qu'il ne dirige pas, il n'a pas un grand répertoire. Je ne sais pas, parce qu'il ne veut pas. Et il reste là, ou peut-être avec, je cherche, parce que c'est difficile de comprendre les réactions d'une autre personne. C'est difficile, quelquefois, de comprendre moi-même. Tu peux penser que je peux comprendre Kleiber. Mais, lui, il a peur de pas répéter les triomphes, les choses, ou il manque quelque chose de sûreté, ou les paresseuses, je ne sais pas. Et c'est un grand, grand dommage parce que, j'ai parlé beaucoup de fois avec lui, j'ai dit, Carlos, mais je t'en prie, parce que tu ne fais pas... Aussi Adrien, j'ai demandé avec lui, et je dois dire qu'il m'a... En parlant avec lui, il m'a ouvert aussi, il m'a donné des petites choses, qu'il est génial, tu comprends, pour Adrien. Et aussi, j'ai dit, Manon, autre chose, les Requiem, tu peux imaginer avec lui des choses comme ça. Mais il dit, oui, mais non, mais, et il ne le fait pas, et alors je ne sais pas quoi dire.
Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est le perfectionnisme poussé à l'extrême?
C'est étrange parce que quand il parle comme ça, il dit « Ah, mais non, je ne peux pas ». C'est comme, il te donne l'impression qu'il a peur. Et après, quand il va sur le podium, il a une personnalité, il n'a peur de rien. Et c'est vraiment incroyable, la personnalité de cet homme-là. Thank you.
Une autre date historique de la carrière de Mirella Freni, c'était en mars 1973. C'était à Paris, et pas exactement à Paris, c'était au château de Versailles.
Oui.
Elle ouvrait l'ère Liberman à Paris avec Les Noces de Figaro, dirigées par Sir Georg Scholti, dans une mise en scène plus que légendaire, de George Strehler.
Oui.
Mirella Freni, Michaela, Mimi, les rôles dramatiques, mais je crois que
la Suzanne
des Noces de Figaro a été aussi un rôle important.
Non? Oui, oui, j'ai chanté beaucoup de fois, j'ai aussi une pellicula, non, des vidéos, et j'aime beaucoup ce rôle parce que là, il a tout dedans, il a le tempérament, les choses, tu peux vraiment, vraiment faire tous. Et pour moi, c'est extraordinaire. Et aussi, il est long, hein? Je dois dire que c'est un long rôle parce que Suzanne, elle est toujours...
C'est la protagoniste.
Oui, oui, mais c'est long comme
et
comme...
quatre actes.
Il est toujours sur scène. Hein? Il est fatigant. Et quand on arrive à le dernier acte, après qu'il a bougé, il a fait de tout, toutes ces choses-là, l'aria devient non tardare. C'est un peu fatigant.
Et maintenant, attendez une petite surprise. La petite surprise, Mirella Freni qui ne chante pas Suzanne ici, mais l'année suivante, l'année après les Noces de Figaro à Versailles avec Scholti, elle chantait à la Scala de Milan sous la direction de Claudio Abbado et cette fois-ci, elle chantait La Comtesse. Oui. Nous avons écouté l'air du début du deuxième acte. Mirella Freni, est-ce que passer de la Comtesse à Suzanne et de Suzanne à la Comtesse, malgré tout, ce n'est pas très facile, ne serait-ce que pour des raisons psychologiques.
Non, mais c'est arrivé vraiment, ce n'était pas prévu, parce que j'ai eu le contrat pour chanter Susanna à la Scala avec Abbado, et c'était une autre soprano qui devait chanter la Comtesse, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, alors Claudio, que nous sommes très amis, nous avons travaillé beaucoup ensemble. Alors,
dans le magique, Simon Boccanegra.
Oui, 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 Don Carlos, Requiem, nous avons fait beaucoup de choses. Et alors, il m'a téléphoné, il m'a dit, Mirella, tu dois me faire un grand plaisir. Quoi? Tu dois chanter Comtesse pour moi, parce que j'ai un problème avec l'autre soprano. Je dis, mais Claudio, je n'ai jamais chanté de faire le début à la Scala. Et aussi, il devient difficile parce que quand on chante ensemble, les deux, je dis, je dois vraiment travailler beaucoup. Il a dit, Mirella, tu dois faire ça. Je dis, écoute, je vais essayer maintenant à la maison. Si je vois que j'ai la possibilité de le faire, et je le fais. Et c'est bien passé.
Parce que les deux femmes sont très différentes
psychologiquement. Non, mais, oui, oui. Et aussi, tu sais, le temps, ce n'était pas beaucoup. Alors, pour les préparer bien, comme j'ai voulu, mais c'est bien passé et je dois dire que Claudio m'a aidé beaucoup et on a travaillé beaucoup ensemble et là est sorti le personnage et tout.
Le vérisme de la bohème, l'opéra un peu plus soutenu, un peu plus spinto de Otello, Don Carlos et tous les rôles qui font maintenant partie de la carrière actuelle.
Oui.
Le chant mozartien, c'est une autre parenthèse, c'est un autre chemin.
Oui.
Est-ce qu'on peut chanter le vérisme, le spinto verdien, Mozart avec la même voix et la même technique?
La même technique, oui. La même voix, non. Tu dois chercher d'échanger des petites choses parce que c'est une autre chose, une autre expression. Et la ligne, elle va changer. C'est seulement avec la technique que tu peux faire toutes ces choses-là. Mais naturellement, quand je le fais, je dois garder bien. Si je viens d'une chose plus dramatique, je prends le temps pour passer lentement à les choses plus légères. Autrement, je ne le ferai jamais. Jamais. Aussi, les récitals avec piano, je garde toujours. C'est avant, je chante une chose plus légère, alors je prends le temps minimum. Mais si je chante une chose lourde, comme Fedora ou Adriana ou aussi Tatiana, Onegin, tu comprends, ou la Lisa dans la Pique d'âme, alors je prends plus de temps parce que je ne veux pas détruire les cordes vocales.
Mais plus de temps, ça veut dire qu'avant les premières, on prend plus de repos,
oui.
Parce que je peux porter l'exemple.
Oui, quand je termine toutes les représentations, alors je garde une période pour me reposer. Et après, le temps, je tiens le temps pour recommencer à travailler sur les choses plus légères. Parce que ce n'est pas, tu sais, tu es habitué, tout, l'expression, la musculature, tout, il chante. Si tu chantes une chose de vérisme, c'est une autre chose. Alors, je ne vais pas faire des bêtises. Alors, je prends le temps, je me prépare et je travaille bien avec la technique. Alors, je peux le faire.
Est-ce la raison de cette carrière si longue? Parce qu'on a évoqué les débuts en 1955, nous allons vers les 40 ans de carrière.
Oui.
Après, c'est impressionnant.
Je crois que oui. Ça, c'est une des choses la plus importante. Et aussi, naturellement, de garder bien le répertoire. Et aussi, s'il est très lourd, de le faire pas tout pendant toute l'année, de prendre des moments. Et je garde bien ça, je fais le programme et je connais bien les possibilités que j'ai et je sais jusqu'à quel point je peux arriver. Je préfère rester derrière des deux pas que de ne faire pas un demi-pas plus que il peut te donner après des problèmes.
On vous appelle parfois, même assez souvent dans la presse, la prudentissima, qui vous dit donc la très 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 prudente,
oui,
n'est-ce pas?
Écoute, tu penses que c'est mal d'être prudent?
Absolument
dans la vie.
Pas.
Être prudent, ça ne va pas dire d'être
ennuyeux.
Ennuyeux, oui. Ou être pas avec une personnalité. Non, c'est seulement la tête qui...
Non, c'est un signe d'intelligence, à la limite.
Je ne dis pas ça, mais je pense bien, alors...
Une dernière surprise, une dernière rareté pour fêter Mireille Lafrenne dans notre studio cet après-midi. Mireille Lafrenne, il faudrait des heures. J'espère que vous allez revenir très vite sur France Musique, qu'on vous consacre beaucoup de temps, car votre carrière est très belle, très longue et surtout très très intéressante. Je crois que vous avez vraiment beaucoup de choses à dire.
Merci, j'espère vraiment de revenir parce que je me suis rencontrée très très bien et si on a l'envie d'écouter encore ma voix en parlant et en chantant, je serai là avec grand plaisir.
Nous le souhaitons tous. Merci aussi à vous, les auditeurs. Je remercie pour leur aimable et précieuse collaboration Josette Villette et Monique Vigné. Et sur ce, comme toujours, à la semaine prochaine.
C'était le Rideau écarlate, une émission de Sergio Segalini qui recevait la soprano italienne Mirella Freni. Nous étions en janvier 1994. Mirella Freni qui triomphait à l'Opéra Bastille dans le rôle d'Adrienne le Couvreur, l'opéra de Francesco Cilea, dont je vous propose d'écouter l'air d'entrée au début de l'acte 1. Mirella Freni interprétait Adrienne le Couvreur dans le début de l'acte 1 de l'opéra de Francesco Cilea. L'orchestre du Théâtre de la Scala était placé sous la direction d'Antonino Voto. Ainsi s'achèvent nos archives du jour, des archives disponibles à la réécoute ou au podcast, sur le site francemusique.fr à la page des trésors de France Musique. Merci à Béatrice Richet pour la réalisation en collaboration avec les documentalistes de l'INA.
À réécouter sur francemusique.fr.